Nous allons prier le Seigneur après ces chants pour ouvrir la porte de notre cœur à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, qui est toute puissante pour créer le monde entier, elle s'arrête à la porte du cœur. Il faut que la porte s'ouvre. Dieu n'a eu aucun arrêt dans ses volontés. Une gêne pour créer les planètes et tous les systèmes solaires du monde. Le seul arrêt qu'il a eu, je ne dis pas la seule difficulté, le seul arrêt, c'est la porte de notre cœur. Si nous acceptons d'ouvrir ou pas notre oreille intérieure, nous allons prier. Seigneur, tu entends nos prières, et notre prière, c'est que ta parole résonne en nous, elle seule. Parce que ta parole a le pouvoir de donner la vie éternelle en abondance. Nous voulons entendre cette parole aujourd'hui. Nous avons parfois le cœur encombré, chargé de colère, de méchanceté, de péché, de rancune. Nous avons tous un cœur encombré, mais nous voulons te dire, aide-nous à ouvrir grandes nos fenêtres et nos portes pour que ta parole s'installe en nous et crée le paradis, le jardin d'Éden dans notre petit monde intérieur. Ce jardin où tu parlais, où tu as fait la paix avec l'homme, nous voulons retrouver ce temps en nous. Amen. Mes amis, j'aimerais vous parler ce soir de ce discours inaugural de Jésus que nous appelons aujourd'hui les Béatitudes. Ce discours qui commence avec des heureux, bienheureux. Comment ne pas être attentif à ce mot pour lequel nous payons cher? Des gens prennent l'avion, vont au bout du monde, changent de femme, de ville, changent de vie pour trouver le bonheur. Mais le bonheur semble toujours nous échapper, comme quoi il est sur un autre registre, il n'est pas dans une nouveauté, il n'est pas dans ce qui est plaisant, agréable aux yeux, charmant, il est d'une autre dimension. Et nous le comprenons bien quand nous voyons des riches malheureux se suicider, et puis parfois nous voyons aussi le contraire, des handicapés, des malades rayonner de joie. Donc le bonheur n'est pas dans l'avoir, mais dans une forme d'existence que j'aimerais vous faire découvrir en quelques minutes. Ce sera très bref, évidemment. Nous allons lire ensemble, donc, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5, ça c'est connu des lecteurs de la Bible, c'est le célèbre discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, avec les béatitudes. Matthieu, chapitre 5, si vous n'avez pas la Bible, vous écoutez, parce que la Bible se lit et s'écoute. Elle est faite pour être prononcée, donc écoutée. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc ils ont écouté. Entre parenthèses, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que les disciples, ils ont dû entendre? Vous m'entendez bien, tout le monde? Jusqu'au fond, ça va? Levez la main si ça va. Le Seigneur ouvrit la bouche, il les enseigna et dit, voilà, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. J'arrête la lecture ici, la suite, nous l'entendrons mardi soir. Heureux les pauvres en esprit. Ce qui veut dire heureux les pauvres qui le sont dans leur cœur. On peut être riche et dans son cœur être pauvre. Pauvre pour se dire j'ai besoin d'autre chose encore. Autre chose d'important pour ma vie. Il me manque quelque chose. Le riche, c'est celui qui dirait « J'ai tout, je suis suffisant, il ne me manque rien. » Le pauvre, même s'il a de l'argent, des moyens, c'est celui qui dit « Je n'ai pas tout, j'ai besoin de quelque chose de supérieur à ce que j'ai. » D'un pain supérieur, d'une richesse supérieure. Le vrai pauvre, à l'intérieur de lui, il attend quelque chose de Dieu. Et constamment en attente. Il fait dépendre sa vie, non pas de l'argent, mais de Dieu lui-même. Heureux les pauvres dans leur cœur, qui se disent « Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne serai jamais heureux, sauvé, pardonné, consolé. J'ai besoin d'autre chose. » Le pauvre, c'est le mendiant spirituel. C'est l'homme qui, chaque matin, tend sa main vers Dieu en disant « Seigneur, viens avec moi aujourd'hui, dans mon travail, dans mes pensées, dans mes luttes, dans mes doutes, dans mes combats. Viens avec moi aujourd'hui. » Voilà, il a besoin d'une aide extérieure. Il a besoin de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Mais ils sont riches, puisque Jésus dit, le royaume des cieux est à eux. Ils sont pauvres parce qu'ils sont constamment dans la dépendance. Mais ils sont riches puisque tout est à eux. Le royaume des cieux, ce n'est pas un peu d'argent à la caisse d'épargne, le royaume des cieux, c'est-à-dire la joie de Dieu, la paix du Christ, le pardon des fautes, la réconciliation avec Dieu, toutes ces choses et une résurrection dans l'avenir, tout ça c'est à eux. Ils sont pauvres parce qu'ils attendent tout de Dieu, mais ils sont riches puisque tout est à eux, pas fiers aux apparences. Mais à travers cette pauvreté, c'est une porte ouverte au Christ. À travers ces béatitudes, à travers cette description de la vie telle que le Seigneur la conçoit, il y a une porte qui s'ouvre pour la venue de Jésus dans notre vie. Et quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il a, des choses matérielles, périssables, c'est quelqu'un en qui le Seigneur peut déposer quelque chose. On m'a souvent dit « je n'ai besoin de rien ». En faisant du porte-à-porte, 10 000 fois on m'a dit « j'ai tout ce qu'il me faut ». Je suis chrétien, j'ai tout ce qu'il me faut. On a besoin de recevoir de plus haut que nous une bénédiction, la pauvreté dans notre cœur. Et puis, le Seigneur continue en disant, heureux les affligés, car ils seront consolés. On peut traduire, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je n'aurai jamais l'audace d'aller à la porte d'un cimetière en disant aux gens, vous êtes heureux si vous pleurez. Jamais j'aurai l'audace de dire cela à des obsèques. Mais il y a cette phrase, car ils seront consolés. Cette phrase, elle est au futur. C'est peut-être pas aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, vous pouvez déjà vous réjouir. Vous pouvez déjà être heureux au fond de votre cœur parce que demain, vous aurez une grande consolation. D'avance, vous pouvez vous consoler à cause de ce que je vous réserve pour demain. Heureux ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent un défunt, parce qu'ils seront consolés, mais on ne pleure pas que devant la mort. Heureux ceux qui pleurent sur le désordre du monde, parce que les chrétiens ne sont pas dans une autre planète. Heureux ceux qui pleurent sur leurs fautes. Heureux ceux qui pleurent sur le désordre de leur vie. Ceux qui regrettent des paroles, des actes, des pensées. Quand Pierre a renié Jésus, il a pleuré amèrement. Et toutes les fois où Pierre repensait à cette soirée où il a renié Jésus publiquement, Pierre pleurait amèrement. Je pense que les larmes ici ne sont pas seulement des larmes pour la mort, mais aussi pour l'état moral de notre vie ou de la vie des autres. Chrétiens ne sont pas des pleurnichards, mais néanmoins, ils prennent conscience de l'état du monde sans l'aide de Jésus, le monde ne peut pas aller en s'améliorant. Alors ils pleurent devant la souffrance des attentats, les menaces de guerre aujourd'hui au niveau mondial. Pleurons sur les catastrophes, pleurons sur ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, et qui mord de faim, les pieds dans la boue. Nous pleurons. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent sur eux-mêmes, ils seront consolés. Parce que si nous pleurons sur nous-mêmes, je pense que là, les portes de Dieu sont ouvertes. Si nous disons au fond de nous-mêmes, je suis un misérable, misérable que je suis voué au mal, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, je suis un misérable. Si nous avons cette analyse de notre vie, ça veut déjà dire que nous sommes dans la vérité, nous sommes vraiment comme Dieu nous voit. Parce que, pour revenir à la première parole, heureux les pauvres en esprit, la vérité de l'être humain, c'est la pauvreté. Qu'avons-nous ? Qu'emporterons-nous ? Que faisons-nous de durable ? Nous sommes dans un état de pauvreté, de pleurs, et sur la terre, malheur à ceux qui disent « J'ai fait quelque chose, je suis à l'abri, je ne crains rien. » Nous sommes venus nus, nous repartirons tels. Nous sommes incapables d'ajouter une coudée à notre vie. Une coudée, c'est 50 cm, c'est un pas, c'est une seconde. Faire un pas, c'est une seconde. Incapable de prolonger d'une seconde, incapable de faire 50 cm de plus, nous sommes dans la pauvreté. La seule richesse, c'est la direction que nous donnons à notre vie vers Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés aujourd'hui, demain. L'éternité sera un royaume de consolation. Nous arriverons là-haut certainement comme après une course de marathon, essoufflé, affligé, abattu, avec des larmes. Mais Jésus dit, le Seigneur séchera nos larmes. Nous arriverons après un parcours difficile où nous avons été parfois méprisés, assassinés. Et nous arriverons là-haut, la Bible dit, le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ce sont les doux, ceux qui acceptent tout bonnement les choses comme elles sont, qui les acceptent avec douceur, sans se révolter, sans entrer en conflit. Ils acceptent parfois d'être dépouillés, ils acceptent parfois le mépris. Difficile d'être doux. Il faut être très fort pour être doux. On a dit parfois, les doux, ce sont des faibles, ce sont des sentimentaux, des pleurnichards, ils sont doux, ils manquent de caractère. C'est peut-être vrai pour certains, mais les vrais doux, ce sont ceux qui se maîtrisent. Et devant tout ce qui provoque, devant tout ce qui est difficile à vivre, ils restent paisibles. Ils restent calmes. Il semble qu'ils vont perdre parce que la douceur, c'est ne pas chercher à tout gagner, c'est savoir perdre. Mais Jésus promet, ils hériteront, ils auront un héritage. Tout le monde n'a pas d'héritage. Je n'ai jamais eu d'héritage. Beaucoup de gens sont plutôt déshérités. Ils auront un héritage. Ils n'ont pas cherché leur intérêt, ils ont laissé passer parfois des occasions d'être riches, ils ont parfois accepté d'être dépouillés plutôt que de faire mal aux autres. Alors le Seigneur dit, vous allez hériter de la terre. Bien sûr, la terre, on préférait le ciel, mais en fait la terre représente ce temps à venir où le Christ sera sur la terre et là il régnera avec ceux qui ont cru en lui. Ils seront avec Jésus, roi de la terre, prince de la terre. Ces pauvres qui ne savaient pas dire non, qui n'osaient pas affirmer, ces pauvres qui regardaient plus haut que les réalités terrestres, ces pauvres qui ne voulaient pas s'accaparer de choses qui n'étaient pas à eux, ils étaient doux. Ils hériteront la terre, seront riches. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Il y a plusieurs sens au mot justice. On pourrait dire celui qui a faim de justice et celui qui veut aller au tribunal. J'ai faim de justice, je vais aller au tribunal, je vais prendre un avocat et je vais manifester que j'ai raison. Mais la justice, ce n'est pas là, ce n'est pas ça, ici. La justice, c'est être comme Dieu aime. Et là, on a du mal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On a du mal à être comme Dieu voudrait. On fait des efforts, on fait des pas en avant, des pas en arrière, parce que en nous, il y a une pesanteur du mal, une pesanteur du péché. Le jour où nous avons lâché la main de Dieu, on a l'impression que nous avons pesé ce jour-là des tonnes. On a du mal à s'élever, du mal à prier, du mal à faire le bien, à ne pas en vouloir, à ne pas montrer d'agressivité, de jalousie, du mal à retenir nos sentiments naturels. On a du mal à plaire à Dieu. À Jésus, quand il nous dit, si on vous frappe sur la joue, tendez l'autre, Jésus qui injuriait ne rendait pas d'injure, on a du mal à ressembler à sa vie. Des gens m'ont dit, je ne pourrai jamais, je voudrais plaire à Dieu. Mais comment? Faim et soif d'être juste comme Dieu veut. Le grand tourment de Martin Luther, ce moine du XVe siècle, le grand tourment, c'était comment être sauvé, comment plaire à Dieu. Il était moine, il enseignait le Nouveau Testament, il était un érudit de la Bible, connaissant plusieurs langues, et malgré tout, au fond de lui, il avait cette torture, comment plaire à Dieu, comment être juste comme Dieu veut. Et alors, en faisant les études des Galates, des Romains, il est tombé sur ce verset de la Bible que le salut s'obtient par la foi, en faisant confiance à Dieu qui, lui, nous sauve. Faim et soif de justice, c'est Dieu qui nous rendra juste. Faim et soif de plaire à Dieu, c'est Dieu qui nous rendra conformes à lui. Nous ne pourrons jamais nous-mêmes, nous ne pouvons pas délivrer nos âmes, racheter nos âmes, dit la Bible. Nous ne pouvons pas changer nos âmes, ce qui est courbé, on ne peut pas le redresser. C'est Dieu qui va faire ce travail magnifique, une nouvelle mentalité, une nouvelle vie en nous pour nous rendre comme Dieu aime, juste comme Dieu aime, justement comme Dieu aime. Et à ces gens-là, il est dit, ils seront rassasiés. Ce qui veut dire quand le Seigneur nous prend en main, il nous donne un cœur nouveau, il nous donne des sentiments nouveaux. Je ferai couler sur vous une eau pure et je vous purifierai. Je vous donnerai, dit le Seigneur, un cœur nouveau. Au lieu d'un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui écoute, un cœur qui pardonne, un cœur qui donne. Je changerai votre mentalité. Heureux ceux qui ont faim et soif d'être comme Dieu aime. Ce sont des gens heureux dans le sens que Dieu leur dit, moi je vous prendrai en main et je vous transformerai à mon image. Dieu s'occupe de nous. Il n'a pas créé le monde comme on fait une boule, une bille, en lançant le monde en disant maintenant débrouillez-vous. Il n'a pas lancé le monde dans l'espace en disant à vous de jouer maintenant, j'ai fait mon travail, je ne m'occupe plus de vous. Dieu est sur la bille, sur le monde. Et Dieu s'occupe de chaque pensée, chaque souffrance, chaque détresse, chaque accident de la vie. Dieu est avec sa créature dans les moindres détails, puisqu'il est dit que le Seigneur soutient nos corps et nos âmes, chaque cellule, chaque molécule est soutenue par une parole éternelle de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de plaire à Dieu, d'être comme Dieu veut. Souvent, avec les années, les personnes âgées disent « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le grand jour ?» Parce qu'on se rend compte au fond de nous-mêmes qu'il faudra rendre des comptes. Nous le sentons tous, ça, c'est un peu inné en nous. Nous rendrons des comptes, Jésus disait, de chaque parole que vous aurez prononcée. Alors, avec le temps qui passe, on se dit « Mais que faut-il que je fasse ? Comment faut-il être ? Que puis-je rattraper ?» Que puis-je rattraper ? Comment puis-je changer ce que j'ai ? Comment puis-je arracher ce que j'ai planté ? Comment puis-je planter ce que j'ai arraché ? Le Seigneur promet, vous serez rassasiés. Le Seigneur vous habitera en vous. Le Seigneur transformera votre maison intérieure. Le Seigneur embellira votre vie avec une présence rayonnante, la présence de Dieu en vous. Promesse, Dieu s'occupe de nous. Et tout ça, ce sont des chemins, parce que celui qui a vraiment soif de plaire à Dieu, le Christ frappe à sa porte. Celui qui pleure sur l'état du monde ou sur l'état de son cœur, agressif, jaloux, voleur, le Seigneur est à la porte et il dit « Je vais te consoler ». Si quelqu'un se sent pauvre, démuni, sans force, le Seigneur frappe à la porte et il dit, moi je viens t'aider, je viens te secourir. Les béatitudes, ce sont des états d'esprit, des états d'âme qui sont des ouvertures au Christ. Quand je suis pauvre, quand je pleure, quand je voudrais être meilleur, je veux dire au Seigneur, viens m'aider Seigneur, viens m'aider. Heureux, au verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est un sentiment multiple de pitié, de bonté, de pardon. Miséricorde, c'est formé de deux mots. Le cœur, corde, cordia, cordialement. On dit toujours à la fin de nos SMS, cordialement. Le cœur. Et puis la misère. La miséricorde, c'est un cœur qui réagit, qui pleure devant la misère de l'autre. C'est un cœur sensible, mais qui n'en reste pas à pleurer, qui agit. Souvent, la miséricorde est associée avec le pardon. On fait grâce. Pas une rigueur, jusqu'à la fin du monde. On fait grâce, on fait miséricorde. On fait miséricorde à celui qui souffre et qui a besoin d'un secours de toute urgence. Et miséricorde. Et on souffre intérieurement devant des personnes, des situations pour lesquelles on ne peut rien faire. On est pris au ventre. Jésus pleurait en frémissant dans son ventre. Il pleurait avec des sanglots devant le tombeau de Lazare. Il avait la miséricorde, un cœur qui vibrait devant la misère. C'est ça, la miséricorde. Et devant la miséricorde, qui est un cœur ouvert, un cœur qui enregistre les mouvements du monde, qui enregistre toutes les détresses qui nous entourent et qui réagit, qui répond. Jésus fait une promesse. Si vous réagissez devant la misère qui vous entoure, en pardonnant, en donnant, en vous penchant, en allant au-devant de l'autre, un jour, vous serez devant votre Père des cieux, et nous le serons tous. Athées, croyants, musulmans, chrétiens, tout le monde, nous paraîtrons tous devant le Dieu unique, le Dieu du ciel et de la terre. Et en ce jour-là, le Seigneur promet, parce qu'on n'arriverait pas là-haut parfait, il vous sera fait miséricorde. Vous avez eu pitié sur la terre, vous avez pris soin des gens, qui était dans la détresse, la misère, miséricorde, il vous sera fait miséricorde dans le ciel. Notre miséricorde va déclencher la miséricorde de Dieu. C'est important. C'est important que sur la terre, on puisse penser aux conséquences célestes, éternelles, de tout ce que nous faisons. Tous nos gestes ont des répercussions éternelles. On ne vit pas l'instant présent en oubliant. On ne vit pas l'instant présent en disant « c'est fini, rien n'est fini ». Tout s'inscrit, tout s'écrit quelque part dans les registres de Dieu. Et quand nous comparaîtrons devant lui, le premier qui nous fera miséricorde, c'est Jésus. Mais nous aussi, je pense que des choses que nous n'avons pas sur la terre ont été très bien réglées. Je crois que le Seigneur fera grâce, une grâce supplémentaire, une grâce particulière à ceux qui auront fait miséricorde. Il leur sera fait. Ils obtiendront. De la part de qui ils obtiendront? Pas du président de la République. Ils obtiendront miséricorde de la part de celui qui seul peut nous donner miséricorde, c'est Dieu. Ils obtiendront miséricorde. C'est important. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur sans mélange, un cœur tout entier. La pureté, cela veut dire dans la Bible, sans mélange. Un cœur qui tout entier est donné, respecte les autres, pour avoir confiance en lui. Quand il dit une parole, c'est bien. Il peut changer de parole parce qu'il est capable de revenir, d'avoir compassion et de revenir sur ce qu'il a dit. Eh bien, cet homme-là, il est capable, il sera capable, il lui sera donné de voir Dieu. Je pense parfois à ce verset, heureux les cœurs purs, les cœurs sans mélange, qui sont d'une seule pièce, ils verront Dieu. Nos yeux ont un problème, mes amis. L'approche, je porte des lunettes. nous avons perdu la vision des choses. Nous ne savons plus regarder quelque chose sans penser au prix, combien ça coûte. Combien de fois les gens disent, ils voient la Bible, je leur présente la Bible, premier mot, combien ça coûte. Je leur propose de venir aux réunions, combien ça coûte, tout coûte, tout est dans le coût. On regarde les choses avec leur valeur marchande. Ici, il est dit, ils verront Dieu. C'est-à-dire, nous serons capables de voir celui que nous avons perdu de vue depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, Dieu lui-même. Nous pourrons voir Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu est invisible, c'est vrai. Mais quand on voit le Christ, on voit Dieu. Et nous verrons ce que sur la terre nous n'avons jamais vu. Une gloire, une splendeur, une beauté que je ne pourrai jamais décrire. Nous verrons quelque chose de Dieu dans le royaume éternel. Parce que notre cœur aura été oui, amen, tout entier, donné, sans mélange, sans ombre, sans variation. Nos yeux retrouveront leur santé, leur lucidité, leur clarté. Et déjà sur la terre, quand un cœur est pur, on voit les choses autrement. Quand on a un cœur faussé, on voit tout de travers, on entend tout de travers, on prend tout mal, tout est chaviré. Les cœurs purs, les cœurs doux, les cœurs qui font miséricorde, sont des cœurs qui voient, qui comprennent, qui voient clair. Et ça, je pense que c'est une porte, le cœur pur qui ne veut pas tricher, c'est une porte ouverte pour la venue de Jésus. Je vais conclure. Avec heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On traduit aussi heureux les artisans de paix. Presque les artistes de paix. Parce que faire la paix, c'est un travail artisanal. Ce n'est pas industriel. En disant je fais la paix pour toujours, on n'en parle plus. Il faut toujours recoudre, il faut toujours réparer. Il faut toujours reprendre le fil et le remettre sur les chevaux. Et constamment, il faut toujours tricoter la paix. Elle se détricote facilement. Un mot, un regard, une mauvaise nouvelle, le temps qui change et la paix peut bouger. Être artisan de paix, c'est tisser une relation paisible avec Dieu, avec les autres, avec ses parents, sa femme, son mari, ses enfants. C'est souvent avec les plus proches que la paix est compliquée. Moi, je suis en paix avec tous les gens de Pékin. Je les aime, je leur dis bonne année, je suis en paix avec eux parce que je ne les connais pas. Mais avec les personnes tout proches de nous, la paix est difficile. C'est un travail de reprise constante, d'attention, un travail d'écoute, un travail où l'on prend sur soi, où l'on se maîtrise. La paix, ça se travaille, ça se cultive. Il faut en prendre soin, elle peut partir. Aujourd'hui, la paix sur la terre peut s'échapper d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, on peut nous annoncer demain que tel grand pays déclare la guerre à tel autre pays. Tout est fragile. Tout est fragile dans le couple, dans la famille, avec les enfants. Tout est fragile. Heureux ceux qui travaillent cette paix, parce que leur récompense est là. Ils seront appelés fils de Dieu. Quel nom extraordinaire! Quand nous arriverons là-haut dans le royaume du Seigneur, et le Seigneur nous dira à nous, mais aux autres, voici un fils de Dieu, parce qu'il a apporté la paix où il était. Il a semé la paix, il a donné la paix aux autres. Voici un fils de Dieu. Ce mot fils de Dieu me gênerait presque, puisque le fils de Dieu, c'est Jésus qui a donné la paix avec Dieu. Et quand on donne la paix aux autres, on imite Dieu. On donne la paix, quand on est des hommes et des femmes de paix, c'est une porte ouverte aussi pour que le Christ vienne nous dire, suis-moi, suis-moi. Voici des portes ouvertes. Voici les paroles du Christ qui promettent, qui donnent le bonheur. Et à chaque parole, tout commence avec le mot « heureux ». Ce n'est pas un bonheur qu'il faut gagner, qu'il faut chercher. C'est un bonheur qui nous est donné. Le Christ semble nous dire « Vous êtes heureux, vous les doux. Je vous donne le bonheur, vous les doux. Vous qui avez faim et soif d'être de plaire à Dieu, je vous donne du bonheur. Vous qui vous penchez sur la misère des autres, qui êtes frémissant de tristesse sur la misère des autres, vous qui avez un cœur droit, un cœur pur, je vous donne du bonheur. Et ce bonheur, c'est le Christ. Parce que l'homme des béatitudes, celui qui les a tout accomplis, pauvre, il s'est fait pauvre pour nous, affligé, il a pleuré, doux et humble de cœur, il a voulu qu'on soit réconcilié avec Dieu. L'homme des béatitudes qui a accompli toutes les béatitudes afin d'être avec nous aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ. Eh bien, nous voulons l'imiter et nous voulons lui dire, Seigneur, mets ce grand bonheur en moi. Et le plus grand bonheur, ce n'est pas qu'on ait un peu plus de monnaie dans la poche, ce n'est pas qu'on mange trois fois plus qu'il le faut. Le plus grand bonheur, c'est de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Je traverse des jours très difficiles, mais mes regards se portent sur toi, Seigneur. Ça, c'est le bonheur. S'endormir, se coucher en paix, s'endormir, se réveiller en paix, sachant que le Seigneur est avec nous. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur est à votre portée. Le Seigneur n'est pas loin, puisqu'en lui, nous avons la vie de chaque jour, le souffle de chaque instant. Nous avons le mouvement de chaque instant, nous avons les battements de cœur de chaque instant. Nous sommes totalement branchés sur le Christ. Nous dépendons de lui à chaque instant. Notre vie est dans une étroite relation avec le Christ. Il est à la porte, mais il n'y a pas un millimètre qui nous sépare de lui parce qu'il se tient en nous, il se tient près de nous, il est là. Il n'y a pas de distance pour Dieu, il n'y a pas de temps pour Dieu. Ça n'existe pas. Dieu est au-dessus de tout. Il est là, à côté de vous, dans le bus, dans le métro, dans les difficultés de la vie, les encombrements de la famille. Il est là et il nous dit aujourd'hui, je vous donne ce bonheur de ma présence. Pleurez, mais je serai là. Vous serez toujours pauvres en vous, malheureux, je serai là. Vous donnerez du bonheur aux autres, de la miséricorde, je serai là. Je vous aiderai. Et si on vous persécute, si on jette sur vous des pierres, des paroles, des injures, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Cette porte ouverte sur ta présence, cette porte ouverte sur notre vie, qui nous montre le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Merci pour ta parole qui est une promesse dont l'accomplissement est certain, véritable. Jamais tu ne changeras d'avis sur ce que tu as dit. Ces paroles, dans cette année, nous voulons les vivre. Nous voulons pas seulement les mettre en pratique, mais les recevoir en vie. Nous voulons les recevoir avec ta présence en nous. Seigneur, aide-nous à vivre. Aide-nous à marcher comme tu as marché. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes trop chargés. Nous nous battons pour des choses secondaires. Nous ne savons plus reconnaître l'essentiel. Nous sommes devenus parfois durs de cœur, d'entendement, durs d'oreille. Seigneur, pardonne-nous et accomplis cette parole de béatitude. Heureux serez-vous. Heureux êtes-vous. Seigneur, que ce temps présent et que le temps futur soient accompagnés de ce bonheur. Au nom de Jésus. Amen.